on devait s'impliquer un petit peu là. Mais chers frères, nous venons d'entendre un évangile tout à fait magnifique, c'est celui de la transfiguration, où Jésus, après avoir interrogé les disciples sur son identité, ce que les gens racontent sur moi, et leur avoir fait dire qui il était, monte au sommet du Tabor avec les préférés, ceux qui ont vu les résurrections particulières de Jésus, ceux qui l'accompagneront au siège de Gethsémani. Et le rapprochement de cet évangile avec l'épître, qui nous parle de la pureté, de la chasteté, me paraît extrêmement éloquent. Ce mystère est très riche, mais à ce, beaucoup de spiritualité, en particulier celle des orientaux au Mont Athos, d'après ce qu'il est dominé par la chapelle de la Transfiguration. Mais je vous propose de le regarder sous l'angle suivant. Saint, l'auteur de l'Épître, nous dit que nous sommes appelés non pas à l'impureté, mais à la sanctification de notre corps. Et Jésus nous montre précisément son corps glorieux. Et il me semble que cette vertu difficile, cette vertu que l'accordaire, le grand prédicateur de Notre-Dame appelait une vertu réservée du christianisme, la pureté, la chasteté, eh bien cette vertu est au fond un rayonnement du mystère. Je crois qu'il faut la voir comme ça, parce que sinon on n'arrivera pas à la pratiquer. Mais naturellement, à cause des tentations et du monde qui est souvent un piège pour nous et de notre, la blessure du péché originel, eh bien nous serons pris dans les pièges qui se présentent à nous. Mais si nous voyons la chasteté comme le rayonnement du mystère de la Trinité qui est dans notre cœur par le baptême, à ce moment-là, les choses deviennent facile, je n'oserais pas le dire, en tout cas lumineuse. C'est un combat et une souffrance dans la lumière. La voie du cœur nous appelle à la vie éternelle d'abord. Vous voyez que dans la transfiguration, Jésus, lui, Saint-Luc, est en train de prier, et en priant, il apparaît tel qu'il est, ce qu'il est, c'est le Fils de Dieu. C'est absolument magnifique le passage où Saint-Luc dit, lorsqu'il priait devant eux, il apparut au tel qu'il est tout le temps, mais par une sorte de miracle, il empêche que cette gloire dérive dans son corps. Il est fils du Père, et le Père dit, voilà, mon fils bien-aimé. Donc la voix du Père, dans cette grande lumière, tombe sur les apôtres et leur dit quel est le vrai sens de la paternité charnelle et spirituelle. Nous ne sommes pas limités à une jouissance temporaire de ce monde, qui n'est pas limité à l'instant, il y a l'optimisation de quelques plaisirs éphémères. Nous sommes appelés véritablement, par également l'usage pour ceux qui sont mariés des puissances sexuelles, à la paternité pour que des âmes bénéficient de la vie éternelle. C'est une grande chose, c'est une chose énorme. Le sens de l'engendrement, le caractère sacré de la paternité, et ça nous indique dans quel esprit nous devons vivre, dans quelle perspective cette espérance de la vie éternelle. Remarquant, comme je peux l'avoir remarqué après 36 ans, ça sert. Le désespoir engendre un passé, et que seule l'espérance donne au devoir moral de la chasteté son exigence absolue, disait Ratzinger, et que celui qui espère reste dans la lumière de Dieu et observe la chasteté. Donc le Christ se présente à nous dans cette voie du Père comme le paradis nouveau et nous donne le sens de la génération. Et je fais remarquer au passage le sens aussi de la génération spirituelle. Si vous avez des prêtres ici, s'il y a M. Abbé Leroux, M. Abbé Renard, M. Abbé Moura, Père Bruno, et puis moi de temps en temps, et quelques autres, c'est parce que la paternité spirituelle est également une vocation faite de foi différente, mais peut-être plus mystérieuse, plus profonde. Si vos enfants y sont appelés, réjouissez-vous, ne prenez pas, aidez-les, priez pour des vocations, et soyez ouverts vous-même à cette paternité extraordinaire qui vous permet d'exercer la vôtre si vous êtes marié dans la perspective du ciel, parce que c'est celle-là qui domine tout. Le Père nous appelle à la vie éternelle, c'est chose extraordinaire. Ensuite, le Fils, la beauté du corps du Christ, qui a fasciné les auteurs, les artistes, spécialement romans et clandestins. La beauté du corps du Christ nous révèle la vérité de notre corps. C'est un grand aide pour la chasteté. Ce que nous sommes, en fait, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes en réalité spiritualité, une domination, être la manifestation, l'épiphanie sensible de l'esprit, et c'est ça la grandeur du corps. Le corps est un message de l'esprit, le corps est vraiment une partie de nous-mêmes, et le Christ se présente à nous comme l'antidote du nihilisme, l'antidote de l'absurde. Notre corps qui se mit à la maladie, à la mort, ressuscitera si nous sommes fidèles dans la même gloire dans laquelle nous voyons en ce moment le Christ, et ça vaudra énormément la peine de rester dans cette lumière de la chasteté selon l'état de chacun, le célibataire, la personne mariée, le religieux, le prêtre. Et comme le disait Cardinal Ratzinger, le corps n'est pas étranger au rapport avec Dieu. Je crois que c'est une grande erreur qui découle de beaucoup de déviations modernes d'estimer que le corps est une espèce d'instrument de puissance et de pouvoir. Il est vraiment beaucoup plus. Il est un élément de notre rapport avec Dieu. Et Ratzinger soulignait qu'il n'y a pas de véritable acceptation du primat de Dieu si ce dernier ne concerne pas la corporalité de l'homme. Dès le début de la tradition chrétienne, la virginité jeune, donc la virginité pour ceux qui sont appelés, le jeune et tout le monde, deviennent deux expressions indispensables du primat de Dieu, de la foi pour la réalité de Dieu. Donc nous devons avoir l'estime de ces réalités, et selon notre état, peut-être aussi appliquer le conseil du symbole qui recommande avec prudence de s'abstenir de ce qui est permis aux époux durant un certain temps, pour appliquer la promenade de avec la prière, et en tout cas avoir l'estime de la virginité, de la tenue, de la façon dont nous sommes par rapport à notre corps, et de l'importance que ça revêt pour manifester concrètement le climat de Dieu dans le monde. Le corps aussi est un message de Dieu, le corps du Christ qui manifeste la volonté du corps. Ensuite, le Saint-Esprit, qui pourrait faire et signifié par la nuée, et lorsque les trois apôtres tombent à genoux devant ce qu'ils voient, la lumière sort du corps du Christ, elle revêt ses vêtements, elle rayonne en splendeur tout autour de lui, et dans cette lumière apparaît Moïse qui parle de la passion. Il rentre tous dans cette lumière par les apôtres. Et c'est assez étonnant, et cette lumière qui est le symbole du Saint-Esprit, de la beauté de l'amour. Mais la beauté de l'amour, qu'est-ce que c'est? La beauté de l'amour, c'est la gaffe, c'est le don de soi. Il semble bien que le Saint-Père nous en a donné un très bel exemple. La beauté de l'amour, c'est la renonciation à beaucoup de choses pour vraiment se donner aux autres. Il n'y a pas de grande cause d'amour que ça. Et bien en parlant avec Moïse de la passion, de sa sortie de Jérusalem, son grand exode, Jésus nous manifeste la beauté de l'amour. La beauté de notre vocation propre, qui doit être certie dans les grains du respect. Respect de soi, respect de son corps, respect de sa tenue, respect de sa vocation masculine et féminine, respect de l'autre. Sans le respect, l'amour est impossible. Et le respect soutient la noblesse du renoncement et manifeste la beauté de l'amour. D'ailleurs, Saint-Pierre nous dit, il nous est beau, ce terme employé par l'évangéliste, il nous est bon, il nous est beau. Et de fait, l'amour qui se renonce est quelque chose de magnifique. L'amour possessif engendre, nous le voyons depuis plus de demi-siècle, depuis qu'on s'est rendu compte que sur les pavés, il n'y avait pas la plaque, plutôt le pavé, donc la société dépressive. L'amour possessif engendre la violence, le mépris, la déception, la tristesse et la mort. Et l'amour agapé, l'amour des chrétiens, celui qui se manifeste dans le martyr de tant de nos frères tous les jours, à chaque instant on vous parle, quelques martyrs qui donnent sa vie pour le Christ dans certains pays du monde, il y a cet amour-là qui cache en quelque sorte à la méchanceté du démon dans la lumière du Christ, dans l'invisible cristal de la grâce, dans la transparence de l'amour. Et il diffuse autour de nous ce rayonnement mystérieux, la beauté de la chasteté qui est inconnue au monde, ce qui facilite la foi. C'est un des grands arguments de crédibilité du christianisme. Comme disait Lacordaire, une vertu réservée du christianisme, la beauté du christianisme. Donc mes chers frères, réjouissons-nous, même si nos cœurs, comme dit Saint-Pierre, sont pour quelque temps dans la douleur à cause de la situation de la Sainte Église, réjouissons-nous parce que la transfiguration manifeste de la chasteté, la pureté, l'amour d'oblation est en nous le rayonnement du mystère de la sainteté.